Le texte du conte de Théophile Gautier, paru en 1852, a fait l'objet de légers aménagements, en particulier en ce qui concerne, sous la plume de l'auteur, la résurrection de la cité antique, l'emploi multiplié de mots et d'expressions latines nécessitant pour le lecteur moderne des recherches lexicales qui nuiraient à son plaisir. Aria Marcella, souvenir de Pompéi. Trois jeunes gens, trois amis qui avaient fait ensemble le voyage d'Italie, visitaient l'année dernière le musée des Studii à Naples, où l'on a réuni les différents objets antiques exhumés des fouilles de Pompéi et d'Herculanum. Ils s'étaient répandus à travers les salles et regardaient les mosaïques, les bronzes, les fresques détachées des murs de la ville morte, selon que leurs caprices les éparpillaient. Et quand l'un d'eux avait fait une rencontre curieuse, il appelait ses compagnons avec des cris de joie au grand scandale des Anglais taciturnes et des bourgeois posés, occupés à feuilleter leurs livrets. Le plus jeune des trois, arrêté devant une vitrine, paraissait ne pas entendre les exclamations de ses camarades, absorbé qu'il était dans une contemplation profonde. Ce qu'il examinait avec tant d'attention, c'était un morceau de cendre noire, coagulé, portant une empreinte creuse. On eût dit un fragment de moule de statue brisé par la fonte. L'œil exercé d'un artiste y eût reconnu la coupe d'un sein admirable et d'un flanc aussi pur de style que celui d'une statue grecque. L'on sait, et le moindre guide du voyageur vous l'indique, que cette lave refroidie autour des corps morts en a gardé le contour. Grâce au caprice de l'éruption qui a détruit quatre villes, cette noble forme, tombée en poussière depuis 2000 ans, bientôt, est parvenue jusqu'à nous. La rondeur d'une gorge a traversé les siècles, lorsque tant d'empires disparus n'ont pas laissé de traces. Ce cachet de beauté posé par le hasard sur la scorie d'un volcan ne s'est pas effacé. Voyant qu'il s'obstinait dans sa contemplation, les deux amis d'Octavien revinrent vers lui et Max, en lui touchant l'épaule, le fit tressaillir comme un homme surpris dans son secret. Évidemment, Octavien n'avait entendu venir ni Max ni Fabio. « Allons, Octavien ! Ne t'arrête pas ainsi des heures entières à chaque armoire, où nous allons manquer l'heure du chemin de fer, et nous ne verrons pas Pompéi aujourd'hui. Que regarde le camarade ? Ajouta Fabio, qui s'était rapproché. Ah ! L'empreinte trouvée dans la maison d'Arius Diomédès. Et il jeta sur Octave un coup d'œil rapide et lourd de sous-entendu. Octavien rougit faiblement, prit le bras de Max et la visite s'acheva sans autre incident. En sortant des studis, les trois amis montèrent dans un coricollo et se firent mener à la station de chemin de fer. Cet attelage, avec ses grandes roues rouges, son strapontin constellé de clous de cuivre, son cheval maigre harnaché comme une mule d'Espagne, courant au galop sur les larges dalles des avenues napolitaines, est trop connu pour qu'il soit besoin d'en faire la description ici. Et d'ailleurs, nous n'écrivons pas des impressions de voyage, mais le simple récit d'une aventure bizarre est peu croyable, quoique vrai. Le chemin de fer par lequel on va à Pompéi longe presque toujours la mer dont les longues volutes d'écume viennent se dérouler sur un sable noirâtre qui ressemble à du charbon tamisé. Ce rivage, en effet, est formé des coulées de lave et de cendres volcaniques et produit un contraste avec le bleu du ciel et le bleu de l'eau. Parmi tout cet